a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonsoir à tous et bienvenue dans l'Amérique et vous sur VO Afrique. Et c'est une émission qui est consacrée au 50e anniversaire d'Apollo 11 sur la Lune. Abdourahmane Dia, la présentation. Il y a un demi-siècle, un homme marchait sur la Lune. Cet événement historique marquait un développement majeur dans les sciences spatiales. Aujourd'hui, de la lutte contre la désertification aux télécommunications, en passant par la défense, l'espionnage, beaucoup de secteurs liés à notre vie de tous les jours sont étroitement liés aux sciences de l'espace. Et certaines compagnies veulent même envoyer des touristes dans l'espace. Le président Donald Trump a lui annoncé la création d'une force spatiale pour les États-Unis. Pour en parler, nous avons deux invités, Claude Porcella, ancien chef du service francophone de la Voix de l'Amérique, et Herman Cohen, ancien sous-secrétaire d'État aux affaires africaines. Merci monsieur, bonsoir.
Bonsoir Abdourahman.
Je commence avec vous Claude Porcella. Il y a 50 ans, vous étiez un jeune reporter ici à la Voix de l'Amérique et vous faisiez partie de ce petit groupe de privilégiés invités donc à couvrir le décollage de la fusée. Comment est-ce que vous l'aviez vécu?
Eh bien, intensément, vous l'imaginez. Il y a eu évidemment plusieurs grands moments dans ce vol qui a duré une semaine. Première question, est-ce que la fusée Saturne V allait bien décoller pour envoyer l'équipage d'Apollo 11 dans l'espace? Tout s'est bien passé. Je dois vous dire que l'atmosphère était extrêmement festive parmi les quelques 500 VIP, les 500 invités qui se trouvaient à proximité du pas de tir. Et puis aussi, il y avait une extraordinaire atmosphère tout le long de la côte floridienne. Il y avait à peu près 1 million de personnes qui s'étaient massées. Beaucoup avaient campé toute la nuit sur la plage. Et ils étaient là avec leurs caméras, des télescopes, des jumelles, et tout le monde attendait le compte à rebours. Et finalement, à 9h32 ou 9h39, par un temps splendide, le compte à rebours a commencé. Donc 5, 4, 3, 2, 1, 0, lift-off, décollage, et dans un vacarme assourdissant, au milieu d'un nuage de fumée et de flammes, Saturne V a décollé, et la force de propulsion était à peu près équivalente à une bombe atomique, une mini-bombe atomique, donc vous imaginez la force, et la Terre a véritablement tremblé, et je ressens encore 50 ans plus tard ce tressaillement au sein même de moi-même, mais c'était évidemment le but de la fusée, donc elle a décollé avec succès et on l'a vu s'élancer dans le ciel, laissant derrière elle un sillage de fumée. Et peu après, bien, il y avait la séparation. Les astronautes, le commandement, le vaisseau de commandement Apollo 11 a pris son chemin vers la Lune. Et il a fallu tout de même attendre 4 jours avant qu'elle soit que tout l'équipage et que les deux véhicules soient sur orbite lunaire.
Vous en parlez avec tellement de passion. Y a-t-il un aspect personnel pour vous en couvrant cet événement?
Oui. Et c'est ce que je raconte toujours à mes amis et à tous ceux qui me demandent comment c'était d'être là-bas. Alors, le souvenir que j'ai de ce moment est absolument extraordinaire. C'est au moment où Neil Armstrong a finalement posé le pied sur la Lune et a prononcé sa petite phrase qui est entrée dans l'histoire. Un petit pas pour un homme, un bond géant pour l'humanité. Et alors, dans la salle de presse où nous étions plus d'un millier, des journalistes venus du monde entier. Il y a eu une explosion de joie assez rare de la part des gens de notre profession qui sont tenus tout de même à un certain devoir de réserve. Nous ne sommes pas supposés exprimer nos sentiments. nous rapportons ce que nous voyons, et puis c'est tout. Mais à ce moment-là, nous sommes redevenus humains, si je puis dire, et nous avons voulu partager cette joie collective des Américains, du monde entier, et alors on a vu donc un enthousiasme réel de la part de ces milliers de journalistes, d'envoyés spéciaux, de reporters, et ça a été un grand moment pour moi de fraternité humaine, parce qu'on a eu l'impression que pour quelques instants, on avait oublié les frontières, on avait oublié les idéologies, les questions qui nous séparent pour se rendre compte qu'au fond, nous n'étions qu'une grande famille.
Alors, Herman Cohen, quels sont vos souvenirs de cette mission et quel était l'état d'esprit du citoyen américain ordinaire?
Écoutez, comme vous savez, j'ai été diplomate à cette date-là. J'ai été à l'ambassade des États-Unis à Kinshasa, dans la République démocratique du Congo. À l'époque, ça s'appelait Zaïre. Mais malgré le fait que les gens autour de moi étaient des Congolais, des Zaïrois, il y avait une grande joie parmi la population là-bas. Tout le monde était cloué à leur radio. Et les gens qui avaient la télévision ne quittaient pas la télévision. Donc, et j'ai trouvé un grand sentiment pro-américain ce jour-là.
Et ici aux États-Unis, comment c'était vécu? Je sais que vous étiez à Kinshasa, mais comment les gens l'ont vécu quand vous leur parliez à l'époque?
Oh, c'était une grande joie. Vous savez qu'en 1957, l'Union soviétique était le premier pays à lancer un satellite en orbite.
Avec Sputnik.
Donc il y avait une anxiété. Les gens étaient un peu déprimés parce qu'on croyait que l'Union soviétique nous dévançait dans la technologie. Donc tout ça a été balayé par l'Apollo,
Apollo
voyage 11. À la Lune.
D'accord. Claude, la réaction dans le monde...
chose à mon ami Herman,
oui?
C'est que les Américains avaient véritablement besoin de ça. Ça leur a un peu remonté le moral. Après une décennie qui avait été particulièrement déprimante, n'oubliez pas que le pays avait connu 3 assassinats, le président Kennedy en 63, et puis l'assassinat du pasteur Martin Luther King, et enfin, peu après, l'assassinat du frère du président, Bobby Kennedy. Donc, il y avait ça, il y avait aussi la guerre du Vietnam, qui était une source de controverse, il y avait de nombreuses manifestations contre la guerre, et troisièmement, il y avait aussi des émeutes raciales importantes. Donc, c'était une période assez agitée,
ouais.
Et cela a évidemment remonté le moral des Américains, c'est venu à un bon moment.
Ouais, une décennie bien chargé hein, les années 1960 pour les États-Unis. Claude, je reste avec vous. La réaction dans le monde, l'ambassadeur Cohen le disait tout à l'heure pour ce qui est de Kinshasa, on parle de 600 millions de personnes qui ont suivi l'événement en direct à travers le monde. En tant que journaliste, comment est-ce que vous avez vu cela, la réaction à travers le monde?
Bien, écoutez, je l'ai pas vraiment vu parce que j'étais moi-même au centre de contrôle de Houston. J'ai donc suivi tout ce qui se passait à la télévision, comme les 600 millions d'êtres humains à travers la planète. Mais je me souviens bien de ces petites images tremblotantes. Hein. C'était même difficile. On arrivait, il y avait une vague, forme une ombre. On savait que c'était Armstrong, mais enfin. C'était pas encore très clair, hein, la technologie était naissante, donc. Mais en revanche, les communications étaient très bonnes et c'est d'ailleurs ce qui nous a tenu en haleine, si je puis dire, pendant le voyage, à partir du moment où ils ont quitté Cap Kennedy jusqu'au moment où ils sont arrivés sur la Lune. Les communications étaient d'une extrême clarté et donc on pouvait entendre tout ce que la NASA disait aux astronautes et réciproquement. Et de temps en temps, d'ailleurs, ils échangeaient des plaisanteries. Je me souviens que Buzz Aldrin, qui était le deuxième homme à poser le pied sur la Lune, se félicitait de la salade de saumon qu'il avait à manger. qui ne devait pas être d'ailleurs tellement bon, parce qu'en général, ce genre de nourriture se trouve dans un tube, et on presse sur le tube, et puis la nourriture sort. Mais enfin, c'est pour vous dire que c'était finalement assez détendu, en dépit de l'anxiété qui régnait, parce que c'était une aventure, et c'était une opération qui, à chaque instant, pouvait ne pas marcher.
D'accord. Vous écoutez l'Amérique et vous. On revient dans quelques instants après une courte pause.
15 seconds. Guidance internal. 13, 12, 11, 10, 9, 8. Ignition sequence start. Engines on. 5, 4, 3, 2, 1. All engines running. Launch commit. Liftoff. We have liftoff.
Voilà, Abdourahmane Dia toujours avec vous dans l'Amérique et vous. Et ambassadeur Cohen, c'était un tournant dans la course vers l'espace, car jusque-là, les Russes, comme vous le disiez tantôt, semblaient prendre le dessus sur le rivaux américain. Qu'est-ce qui a été déterminant pour vous pour voir, en fait, finalement, les États-Unis reprendre le dessus sur cette course vers l'espace?
Écoutez, je crois que c'est la super connaissance dans la technologie des Américains. Nos universités étaient pleines d'ingénieurs, des professeurs qui étaient vraiment forts dans ce sujet. Aussi, il y avait des autres, par exemple, il y avait des Allemands qui étaient, pendant la Deuxième Guerre mondiale, très forts d'envoyer des missiles. On a fait venir ici ces gens-là, M. Von Braun, par exemple, et il a joué un grand rôle dans le développement des puissants moteurs pour envoyer cette chose très lourde vers la Lune et en orbite. Donc, nous étions très fiers, finalement, de notre avance dans la technologie, notre leadership, qui existe toujours, d'ailleurs, qui existe toujours.
D'accord. Claude, il y avait la volonté politique, hein, notamment avec Kennedy et Nixon.
Oui, bien sûr, oui. Et d'ailleurs, c'est ce qui avait motivé le président Kennedy de lancer ce défi à la NASA, aux Américains. Envoyons un homme sur la Lune et faisons-le revenir sain et sauf. Parce que, évidemment, les États-Unis avaient été un peu humiliés par les Soviétiques qui avaient réussi à envoyer une sonde avant eux. Hein, et puis, bon, après, ça a été rapidement réparé avec le premier vol humain par Shepard et puis plus tard par Glenn, mais il y avait tout de même ce désir de reprendre le leadership en matière technologique. Donc au départ, c'était véritablement peut-être même plus la volonté politique qui a permis de développer ce programme.
D'accord. Hermann Cohen, il y a eu tout de même beaucoup de théories du complot sur cette mission. Et certains ne croient pas qu'un homme puisse marcher sur la Lune. Pourquoi, selon vous?
Oh, même aujourd'hui,
tout
vous
à
savez,
fait.
Il y a des gens qui parlent, qui ont un fonds de commerce quand ils disent que ça n'a jamais arrivé. C'était fabriqué par Kennedy et Nixon et les autres. C'était pour la gloire de l'Amérique, mais c'était complètement faux. Mais c'est impossible. Tout était télévisé, n'est-ce pas?
Ouais.
Et donc, il y a toujours des gens comme ça dans tous les pays qui ne croient pas, qui trouvent qu'il y a des complots par les dirigeants. Mais c'est une toute petite minorité, n'est-ce pas?
Tous
les Américains sont très fiers de tout ce qui s'est passé.
Tout à fait. Claude, je vous pose la même question. Pourquoi tant de mal, hein, pour certaines personnes de penser que l'homme peut effectivement marcher sur la Lune?
Non, comme l'ambassadeur vient de le dire, il y a un petit groupe de théoriciens du complot. Ils sont ravis, ils font toujours ils racontent toujours des tas d'histoires. Effectivement, il y a des gens qui ont dit tout ça, ça a été tourné en studio à Hollywood. Là. Mais bon, on sait ce que ce genre d'individu est. N'oubliez pas qu'au moment du 11 septembre, il y a quelqu'un qui a écrit un livre en disant qu'il n'y avait aucun avion qui s'était écrasé contre le Pentagone. Donc ça a toujours existé. C'est mineur, mais c'est vrai, il y a des gens comme ça qui disent non, c'est pas possible, personne n'est allé sur la Lune, mais enfin, je crois que c'est vraiment, c'est une anecdote plutôt que...
C'est un fonds de commerce aussi pour certains. Oui, absolument,
ça fait vendre les livres.
Alors, ambassadeur Cohen, l'histoire entre la NASA et l'espace a principalement été une belle histoire, mais il y a eu aussi ces événements douloureux comme l'explosion du Challenger en 1986 et de Columbia en 2003. Comment ces événements tragiques ont marqué la vision des Américains pour ce qui concerne l'espace?
Oui, c'était, comme vous dites, c'était très tragique, surtout qu'il y avait un concours pour choisir un enseignant pour aller sur une de ces missions du Challenger. Et ils ont choisi une femme, un professeur, qui était très populaire parmi ses étudiants. Et elle était dans une de ces missions qui ont explosé. Ça a fait cette mission encore plus tragique, n'est-ce pas? Mais ça n'a pas diminué l'enthousiasme des Américains pour cette mission d'aller en espace, de faire des découvertes, de voir tout ce qu'il y a en dehors de ce qu'on peut voir par les télescopes, etc. Donc c'était tragique, mais il y a des tragédies tous les jours, il y a des avions qui s'écrasent, etc. Chez nous, aux États-Unis, il y a 35 000 personnes qui sont mortes tous les ans, accidents de voiture. Donc c'était tragique, mais ça n'a pas diminué notre enthousiasme.
Ouais, heureusement que c'est très rare, d'ailleurs. Claude, en 2001, justement, pour abonder dans le sens de l'ambassadeur, il y a toujours cet engouement. Hein, et il y a un milliardaire en 2001 qui s'appelait Dennis Tito et qui avait payé 20 millions de dollars pour passer 8 jours dans la station spatiale internationale. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que des compagnies comme SpaceX, Virgin Galactic et d'autres essayent d'envoyer des touristes dans l'espace.
Oui, tout à fait. Oui.
C'est une priorité, vous pensez?
Ce qui s'est passé, c'est que, bon, après Apollo, après les missions lunaires qui ont pris fin au début des années 70, l'intérêt, il faut le dire, très honnêtement, pour l'espace a un peu décliné. Et puis, ça a repris avec l'envoi des navettes, malheureusement assombries par les accidents que vous mentionniez, de Challenger et Columbia. Et puis, finalement, les navettes ont été mises à la retraite. Et donc, il y a eu cette période où les États-Unis n'avait plus de lanceurs pour envoyer des sondes, des véhicules pour approvisionner les astronautes qui se trouvaient sur la station spatiale internationale. Donc ce qu'on voit en ce moment, c'est le désir des États-Unis de pouvoir fabriquer une nouvelle fusée qui soit capable de se substituer aux lanceurs soviétiques. Et ça prend malheureusement beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Vous le savez, le président Trump souhaite relancer les missions lunaires. Et justement, donc, on travaille sur un lanceur. Mais les travaux n'avancent pas aussi rapidement qu'ils le souhaiteraient. De plus, le coût devient exorbitant parce que ça dépasse largement les devis prévus. On pensait envoyer de nouveau des hommes sur la Lune en 2022, 24. Je crois, mais apparemment ça semble reporter à 2023. Mais donc, comme vous le mentionnez, de plus en plus, on voit une coopération entre la NASA, dont les moyens ont diminué, et le secteur privé qui est très, très intéressé. Il y a le SpaceX que vous mentionniez, il y a...
Richard Branson avec son Virgin Galactic.
Oui, mais y a Bezos avec son Blue Origin, Branson, le Britannique, de Virgin. Enfin, il y a des tas de gens du privé qui sont intéressés à organiser justement ces fameux voyages touristiques. Donc, peut-être qu'un jour vous en ferez partie.
En tout cas, bon, merci. En tout cas, j'aimerais bien, hein, pourquoi pas, comme disait quelqu'un hier sur nos antennes. Ambassadeur Cohen, faut-il retourner sur la Lune? Est-ce que c'est une priorité, pour vous pensez?
À mon avis, non. À mon avis, non. Peut-être, quelqu'un a dit que peut-être à partir de la Lune, on peut aller vers Mars. Sur le plan scientifique, il y a une certaine logique. Mais aller à Mars ne m'intéresse pas beaucoup. Mais à mon avis, s'il faut dépenser de l'argent, il faut dépenser de l'argent ici. Parce qu'il faut réduire la pauvreté, il faut augmenter l'agriculture, et surtout en Afrique, où il y a une grande population de jeunes, moins de 25 ans, qui explosent, et ils n'ont pas de travail, des choses comme ça. À mon avis, il faut dépenser l'argent dans ce secteur au lieu d'aller sur la Lune.
Justement, je vais rester avec vous. Le président Trump évoque une force de l'espace. Est-ce qu'il y a un intérêt dans cela?
Oui, bien sûr, parce qu'il y a toujours la guerre ou la tension entre les grandes puissances. Et maintenant, la guerre avance vers le secteur, ce qu'on appelle le cyber. On fait la guerre de radio, n'est-ce pas, pour couper l'électricité dans l'autre pays, pour couper la télévision dans l'autre pays. C'est une autre forme de guerre, très, très moderne et très, très dangereuse. Donc, il faut des spécialistes. Et c'est pourquoi le président Trump a créé un espace, un corps d'espace, parce qu'il faut se spécialiser dans cette forme de guerre.
D'accord. Claude, on a un auditeur justement sur notre page Facebook qui réagit, il dit ces compagnies peuvent envoyer des touristes pour visiter l'espace s'ils veulent, mais pour ce qui est de la création d'une force spatiale par les États-Unis, cela ne va faire que motiver d'autres nations à suivre l'exemple, et il craint un peu qu'il y ait une flotte. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, évidemment, il y a toujours cette course à l'armement, c'est peut-être un peu dangereux. Enfin, je veux pas prendre position sur ce sujet. Je voulais simplement me contredire mon ami Armand. Moi, je pense qu'au contraire, l'homme a besoin de rêver. Je pense que c'est une bonne chose de retourner sur la Lune. D'abord, il y a eu des retombées scientifiques extrêmement bénéfiques pour nous sur la Terre. Et puis, je ne sais pas, on rêvait de la Lune, on y est arrivé, et je ne vois absolument rien de répréhensible à songer, à rêver qu'un jour, un homme, cette fois, marchera sur Mars. Mais ça, c'est une opinion tout à fait personnelle, et Herman a effectivement raison. On a aussi besoin de moyens ici pour combattre tous nos nombreux problèmes. Mais conserver cette idée de pouvoir un jour... on a atteint un premier objectif qui n'existait que dans les livres de Jules Verne et compagnie. Maintenant, pourquoi ne pas rêver d'atteindre Mars?
En tout cas, le débat est ouvert. Ambassadeur, juste un mot sur l'Afrique. Hein. On sait que l'Union africaine veut créer sa propre agence spatiale pour gérer aussi certaines priorités liées aux télécommunications, à la lutte contre la désertification. Il y a des pays comme l'Afrique du Sud, l'Égypte qui ont des petites agences. Vous pensez que c'est peut-être la solution?
C'est une très bonne idée parce que, comme vous dites, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent être améliorés par des actions dans l'espace. Et surtout dans le réchauffement de la Terre, la communication, etc. Donc, ils en ont besoin en Afrique.
Voilà, merci beaucoup. En tout cas, c'est le genre d'émission qu'on n'a pas envie de terminer, franchement, avec deux excellents invités, très, très doués. C'était Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique, et également Claude Porcella, qui était le chef de ce service, le service francophone de la Voix de l'Amérique. Merci beaucoup d'avoir participé participé à cette émission. Merci à tous nos auditeurs qui ont réagi sur la page Facebook. Vous pouvez continuer d'ailleurs, continuer à réagir sur cette page Facebook de VOA Afrique. À la mise en onde, il y avait Michel Joseph, Justin Tweet à la console. Dans quelques instants, une nouvelle édition du Monde Aujourd'hui avec Claire Morin-Jubourg. Merci, au revoir.